Chapitre 10 Aurelio. Quand il se mit à pleuvoir en fin d'après-midi, Aurelio participait à une mission visant à expulser une bande de passeurs d'un immeuble du Meatpacking District qui leur servait de base. L'affrontement au milieu des murs décrépits avait soulevé des nuages de poussière de plâtre qui lui collaient à la peau, tant il avait transpiré à force de courir dans les escaliers. Il boitait à cause d'une balle en fin de course qui avait heurté sa cheville. Elle venait de ricocher, et l'impact n'avait même pas été suffisant pour trouer sa botte, mais il avait tout de même eu l'impression de s'être pris un coup de batte de baseball. Cela dit, il s'en sortait tout de même mieux que les passeurs. Aurelio n'avait rien de personnel contre une partie du marché noir qui s'était développée dans tout Manhattan. Les gens avaient des besoins, et il y avait des dizaines de marchands qui apportaient nourriture, médicaments et produits domestiques du quotidien. À ses yeux, il ne faisait de mal à personne. Mais il y avait aussi des gangs qui mettaient en circulation des armes et des drogues dures. D'autres encore prétendaient pouvoir faire sortir les gens de l'île. Et cette bande en particulier s'était fait une spécialité de dépouiller les malheureux qui tenaient à atteindre le New Jersey ou d'autres destinations à l'ouest. Des malheureux qui finissaient ensuite au fond du fleuve. Personne n'en savait rien, car ceux qui voulaient partir comptaient le faire pour de bon. Mais les patrouilles de la JTF au sud s'étaient mises à trouver des cadavres à la gorge tranchée. Elles avaient donc mené leur enquête, et le bouche-à-oreille pointait vers une tour d'habitation tout à l'ouest de la 14e rue. Le premier commando de la JTF avait eu des ennuis et demandé du soutien. Aurelio, qui venait de remettre les documents au lieutenant Hendrix, était descendu par la High Line pour voir s'il pouvait se rendre utile. Juste au sud de la 14e rue, la voie passait sous le bâtiment en question et formait une petite place aérienne. Il s'était frayé un chemin à grand renfort de balles et avait nettoyé la cage d'escalier qui menait aux étages occupés par les passeurs, avant d'enfoncer la porte coupe-feu juste à temps pour sauver l'escouade de la JTF d'un tir croisé qui ne lui aurait laissé aucune chance. Elle était totalement accaparée par un groupe de tireurs à l'autre bout du couloir. Et au moment même où Aurelio émergeait de l'escalier, quatre hommes en armes surgirent par une porte tout près de lui. Comme il regardait dans l'autre sens, en direction des soldats en difficulté, il put les abattre sur le champ. Il plongea dans la pièce d'où ils étaient sortis pour recharger son G-36, et il découvrit alors que les passeurs avaient creusé de grands trous dans les murs mitoyens des appartements. Il s'en servit pour traverser l'immeuble et arriver dans le logement d'angle. Ici, le trou avait été creusé dans le mur de la salle de bain. Il le traversa et se retrouva dans une grande chambre à coucher où trois civils terrifiés se blottissaient contre un mur derrière le lit. Aurelio leur fit signe de ne pas bouger. D'après l'Isaac, les tireurs se tenaient dans l'entrée de l'appartement, de l'autre côté d'un séjour spacieux. En effectuant un pas de côté dans la pièce, il vit six passeurs, tous concentrés sur l'équipe de la JTF, dont les membres avançaient de couverture en couverture. Diaz recula dans la chambre, retira la goupille d'une grenade, puis la lança par l'embrasure de la porte à travers le séjour. Il l'entendit heurter le parquet.
« Putain de merde !»
s'écria l'un des criminels. Puis elle explosa. Les oreilles encore bourdonnantes, Diaz fit un nouveau pas de côté dans le salon. À travers la fumée, il vit quatre des hommes au sol, immobiles. L'Isaac en signalait encore deux. Le premier avait plongé dans le couloir pour éviter la détonation, pour le plus grand plaisir des soldats de la JTF, qui ne l'avaient pas raté. Le second sortit d'un placard à linge, de l'autre côté de la porte d'entrée. Il tira une rafale au petit bonheur la chance avec ce qui ressemblait à un TEC-9, et Aurelio sentit sa jambe droite lâcher. Mais il ne s'écroula pas sans répliquer. Ses balles firent éclater le cadre du placard et atteignirent le passeur qui chancela en arrière, s'écrasa contre le mur de l'entrée, puis tomba mort avant même d'avoir touché le sol. L'agent se releva.
« Ennemi neutralisé !»
cria-t-il en direction du couloir. Il examina sa jambe. Elle lui faisait mal, et il avait l'extérieur du pied engourdi, mais il tenait debout. Deux des tireurs bougeaient encore, mais au vu de la quantité de sang au sol et sur les murs, ils s'arrêteraient bien vite de remuer. Aurelio se dit qu'il laisserait la JTF décider de leur porter assistance ou non.
« Identifiez-vous !»
lui cria l'un des officiers. Après avoir épluché les notifications de déploiement, l'ISAC l'informa que ce dernier se nommait Franklin.
« Agent de la division Aurelio Diaz, » répondit-il. « Vous êtes le sergent Franklin ?»« Mais bordel, comment vous le savez ?»« Restez où vous êtes, on entre !»
La JTF tout craché, pensa-t-il. « On demande de l'aide, puis on se méfie quand quelqu'un vient vous filer un coup de main. »« Il y a 3 civils dans la chambre principale, » expliqua-t-il quand Franklin entra en pointant un M4 dans sa direction. Aurelio essaya de ne pas le prendre pour lui. Les gens étaient souvent tendus après une fusillade.
« Par là !»
ajouta-t-il en indiquant la pièce derrière lui. Franklin baissa son M4 et regarda le corps des passeurs. L'un d'eux respira encore, mais à peine. Il releva les yeux vers l'agent.
« Vous savez s'il y en a d'autres ?»«
Il y avait des gardes à l'entrée de la Highline et dans la cage d'escalier, » répondit Aurelio. « Mais tout est dégagé maintenant. » J'en ai eu 4 autres au bout du couloir. Et puis cela. Il n'en dit pas plus. Il garda pour lui le fait que, comme il venait de descendre 12 passeurs, pendant qu'eux étaient coincés dans un couloir, il pourrait quand même lui témoigner un peu de respect.
« Compris, »
fit Franklin. Il pivota vers le couloir.
« On a des civils à l'intérieur. Faites venir un toubib !»
hurla-t-il avant de se tourner vers Aurelio.
« On prend le relais. « Merci pour votre aide. »«
Denada, » pensa Aurelio. Il attendit que l'infirmier de la JTF le dépasse et entre dans la chambre, ignorant par là même le passeur mourant, pour boiter jusqu'aux escaliers. Une fois ceci gravi, il sortit sous la pluie. Sur le chemin, il vit 2 soldats morts. Déjà complètement trempé, il resta un moment sur une portion envahie par la végétation de la High-Rise, un parc aérien qui débutait sur Gansworth Street et prenait fin près du Javits Center. La JTF essayait de la garder accessible et sécurisée parce qu'elle permettait un accès rapide à tout le West Side de Manhattan, de Hudson Yards jusqu'à Greenwich Village, mais aussi pour profiter des lignes de mire dégagées qu'elle offrait sur les rues en contrebas. Le problème, c'était qu'elle était bordée d'immeubles et que les escouades de la JTF étaient souvent la cible de snipers dès qu'elles l'empruntaient. Ce risque était néanmoins grandement réduit par la pluie et le vent. Aussi, Aurelio ne se sentait-il pas en danger. Il s'était appuyé contre une rambarde pour observer le canyon désert auquel ressemblait la 14e rue, qui disparaissait à présent dans la pluie au-delà de la 8e avenue. Il bougea la cheville. Il sentait de nouveau son pied, et rien n'avait l'air cassé. Mais la prochaine fois qu'il ôterait ses bottes, il aurait un mal de chien à renfiler la droite à cause du gonflement. Enfin, chaque chose en son temps. Il songea aux 3 civils dans l'appartement des passeurs. Il y avait parmi eux une fille de 12 ou 13 ans. Il s'agissait sans doute d'une famille. Probablement recomposée, car les chances que 3 membres d'une même famille aient survécu au poison vert étaient infimes. Mais des couples s'étaient reformés depuis. À présent, ils essayaient de quitter la ville, et si Aurelio n'était pas intervenu, ainsi que la JTF bien sûr, tous 3 auraient fini au fond de l'Hudson dans la nuit. Sa fille, Amelia, aurait 12 ans dans près d'un mois, le 3 juin. Il eut un déclic, et décida d'être là pour son anniversaire. Ivan aurait 10 ans en août. Il comptait bien assister au sien également. Il était temps pour lui de retrouver sa famille. Il y aurait toujours du travail pour les agents de la division à New York. Mais c'était aussi le cas à Washington. Au Post Office Building, il avait entendu des gens dire que le gouvernement changeait constamment. Aurelio savait que le président Waller était mort. À en croire les rapports, il avait succombé au virus courant janvier. Mendez, le vice-président, était semble-t-il à Washington pour tenter de limiter la casse, mais d'après la rumeur, on ne lui facilitait vraiment pas les choses. Trop d'intérêts contradictoires et de gens qui voyaient en l'après-poison vert l'occasion de s'emparer du pouvoir. Raison de plus pour Aurelio de retourner à Washington. L'hiver était terminé. les gens commençaient à prendre leur marque, à s'adapter, à reconstruire. Il était temps de s'assurer que la capitale du pays soit stable et sécurisée. Tel était l'impératif de la division. Et il pourrait également garder un œil sur Ivan et Amélia. Il s'écarta de la rambarde et se dirigea vers le nord. Au niveau de la 30e rue, la High Line bifurquait vers l'ouest et Aurelio descendit pour prendre vers l'est. Deux blocs plus loin, il tourna à gauche sur la 8e avenue et fut de retour au Post Office Building à environ 19 heures. Il commença par mettre son équipement à sécher dans la zone de tri, reconvertie en caserne de fortune. Puis il s'essuya et partit à la recherche du lieutenant Hendrix dans l'aile sécurité. Elle venait tout juste d'être relevée, mais il la supplia de lui accorder 5 minutes. Ils s'assirent à son bureau.
« Par politesse, je voulais vous avertir que j'allais retourner à Washington, » commença-t-il. « Pour ce que je sais, la situation se dégrade là-bas, alors qu'ici, elle semble plutôt stable, enfin, en comparaison. »
« Eh bien, » répondit-elle, « en comparaison, peut-être. Nous savons tous les deux que je n'ai aucun ordre à vous donner, agent Diaz. En revanche, je peux vous assurer que j'apprécierais énormément de vous voir rester encore 3 jours. La JTF prévoit une opération à grande échelle pour sécuriser les alentours de l'hôtel de ville et l'entrée du pont de Brooklyn. Nous allons avoir besoin du moindre élément disponible, y compris de vous et de vos camarades de la division. »
Aurelio saisissait l'importance symbolique que revêtait la récupération de la mairie. L'échelle n'était pas la même, mais pour les New-Yorkais, pouvoir compter sur une instance locale serait aussi important que de voir la Maison-Blanche et le Congrès de nouveau opérationnels. 3 jours, pensa-t-il. Il était ici depuis 4 mois.
D'accord, fit-il. Enfin, à moins...
Je sais,
le coupa-t-elle.
À moins qu'autre chose ne vous semble plus important.
Moi aussi, j'ai lu la directive 51, agent Diaz.
Merci de m'avoir reçu, lieutenant, dit-il après s'être levé. L'opération commence dans 3 jours ou vous pensez en avoir terminé à ce moment-là?
Pour l'instant, le plan est de la lancer dans...
Elle jeta un œil à sa montre.
59h30.
« Bien compris, » répondit-il.
« Encore une chose, avez-vous accès au dossier de Washington ?»«
Pas à tous. »«
Vous cherchez quelque chose en particulier ?»«
Amélia et Ivan Diaz, » répondit-il. « Ils étaient hébergés au Mandarin Oriental Hotel. La JTF s'en servait de camp de réfugiés. J'aimerais savoir s'ils s'y trouvent toujours. »«
Ce sont vos gamins ?»
Aurelio acquiesça.
« Je regarde. »
Le lieutenant Hendrix tapota et navigua à travers toute une série d'écrans sur sa tablette. Puis elle s'arrêta, le doigt suspendu au-dessus du clavier, pour étudier le résultat de sa recherche.
« Toute la zone est actuellement inondée, » lui annonça-t-elle. « Ça fait 3 semaines que le Potomac est en crue.
Les comptes rendus d'opérations des chargés de logistique indiquent que la plupart des gens logés au Mandarin ont été déplacés au château de la Smithsonian Institution. D'autres sont partis au nord, dans 2 communautés différentes. » Elle leva les yeux vers lui.
« Malheureusement, je ne sais pas qui est allé où. »
Aurelio dut se contrôler pour ne pas se lever, récupérer son équipement et partir pour Washington dans la minute. Il inspira un grand coup, se reprit, puis demanda.
« Que disent les bilans des pertes concernant les réfugiés ?»
« Je suis désolé, agent Diaz, » s'excusa Hendrix, « mais je n'en vois pas. Je peux seulement vous dire que les rapports de déploiement de la JTF ne mentionnent pas de trop nombreuses attaques au Mandarin, ni d'ailleurs au Smithsonian. J'espère... »
Elle reposa la tablette et soupira en fermant les yeux un long moment.
« Vraiment désolé. C'est tout ce que je peux vous dire. »
En lisant entre les lignes, Aurelio réalisa qu'Amélia et Ivan avaient presque toutes les chances d'aller bien. Ils savaient qu'ils avaient survécu à l'épidémie et aucun rapport ne faisait état d'une attaque meurtrière contre l'un des endroits où ils avaient séjourné depuis. Il allait devoir s'en contenter pour l'instant. 3 jours, se promit-il. puis peut-être 3 autres pour atteindre Washington, en fonction de la distance qu'il aurait à parcourir à pied. Alors, il serait de retour dans la capitale, prêt à défendre la République contre tous ses ennemis, extérieurs comme intérieurs. Et il en profiterait pour retrouver ses enfants. Il était 19h40, l'heure de trouver à manger et de se reposer un peu pour être d'attaque le lendemain. L'agent retourna à son lit de camp. Son manteau goûtait encore dans un coin. Il s'assit, le ventre vide, le corps endolori, tenaillé par l'envie de pouvoir enfin regarder ses enfants dans les yeux en leur annonçant qu'il était de retour. Puis il se domina. 3 jours. Il avait du travail.